إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, nous allons voir aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'explication de la sourate Al-Kawthar. Certains ont dit que cette sourate est une sourate mécoise, et d'autres parmi les gens de science ont dit que c'est une sourate médinoise. Celle-ci est composée de 3 versets, et elle fait donc partie des sourates les plus courtes du Coran. Malgré cela, comme vous allez le voir, celle-ci renferme des bénéfices immenses. Al-Kawthar, cela signifie le bien abondant. Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse donc à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en lui rappelant sa grâce et son bienfait sur lui. Il lui dit subhanahu wa ta'ala « Inna a'tainaka al-kawthar » « Nous t'avons certes accordé al-kawthar » c'est-à-dire nous t'avons certes accordé le mérite et le bien abondant. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam le bien en abondance ici-bas et dans l'au-delà. Il lui a accordé la prophétie. Il a fait de lui le meilleur des prophètes et des messagers, alayhi salatu wa salam. Il lui a aussi révélé le Coran, qui est le meilleur des livres qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé, et le dernier d'entre eux qui est venu abroger tous ceux qui l'ont précédé. Ainsi que d'autres nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa salam ici-bas. Et au jour de la résurrection, il lui accordera aussi de nombreux bienfaits. Parmi ces bienfaits, il y a ce fleuve appelé Al-Kawthar, qui est un fleuve du paradis. Un fleuve qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est de ce fleuve, d'Al-Kawthar, que provient l'eau du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Ce bassin, qui est un bassin immense, dont la longueur est équivalente à la distance parcourue durant un voyage d'un mois. Son eau est plus blanche que le lait. Son odeur, plus parfumée que le musc. Ses récipients sont semblables aux étoiles dans le ciel. Et celui qui boira de ce bassin n'aura plus jamais soif, comme cela est rapporté par les imams Al-Bukhari et Muslim, rahimahum Allah ta'ala. Il fait donc partie de la croyance des gens de la sunnah de croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce fleuve au paradis appelé Al-Kawthar, ainsi que ce bassin au jour de la résurrection. Et ceci fait partie des choses incontestables, étant donné que cela est prouvé par les textes du Coran et de la Sunnah. Donc le fleuve Al-Kawthar, il se trouve au paradis. Et il est la source du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam au jour de la résurrection. Et de ce bassin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam abreuvera de sa main tous ceux qui parviennent à celui-ci parmi les gens de sa communauté. Et comme on a dit, celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Toutefois, il faut savoir que certains seront éloignés et empêchés de parvenir à ce bassin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam les appellera alors, mais on lui dira « Tu ne sais pas comment ils ont changé après toi » ou dans d'autres versions « Tu ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont instauré, qu'est-ce qu'ils ont innové après toi ». Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dira de partir très loin. Les gens de science ont mentionné différentes paroles à ce sujet, et parmi elles, le fait que les innovateurs, ceux qui instaurent dans la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam des choses nouvelles, des choses qui n'en font pas partie, alors ceux-là seront privés du fait de boire de ce bassin, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous en préserver. Quant à ceux qui se maintiennent sur la voie de la droiture, la voie de la sunna, la religion de l'islam, tel que l'a pratiqué le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, tel qu'il l'a enseigné à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum, et tel que l'ont mis en pratique ses compagnons après lui, et l'ont transmise à leurs disciples après eux et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Alors ceux-ci, ils boiront de ce bassin, incha'Allah ta'ala. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi eux. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala rappelle ses bienfaits à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et il lui rappelle cela afin qu'il fasse preuve de reconnaissance envers lui pour ses bienfaits. Et c'est pour cela qu'il lui dit dans le verset suivant, Fassalli li rabbika wanhar. Accomplis donc la prière pour ton Seigneur et sacrifie. C'est-à-dire, sois reconnaissant pour ses bienfaits par l'accomplissement de la prière en la vouant exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire sans ostentation, sans recherche, des éloges ou des compliments des gens. Mais comme on l'a mentionné hier dans l'explication de Sourate Al-Ma'un, la prière, elle doit être vouée exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette prière, elle fait partie des meilleures des œuvres. Les imams Al-Bukhari et Muslim rahimahumallahu ta'ala ont rapporté d'après Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu qu'il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant: quelle est la meilleure des œuvres? Quelle est l'œuvre la plus méritoire? Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam commença par lui dire: la prière en son temps. Vois donc que la prière, c'est une œuvre que le musulman ne doit pas négliger et qu'il se doit d'accomplir en respectant l'ensemble de ses conditions, de ses piliers et de ses obligations, et faire en sorte de mettre en pratique un maximum de ce qui est recommandé dans cette prière. Et parmi les conditions les plus importantes de la prière, il y a le fait de l'accomplir en son temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas simplement dit la prière, mais il a dit la prière en son temps, pour nous montrer que celle-ci, elle a été légiférée en des temps précis, comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. En vérité, la prière demeure pour les croyants une obligation des temps déterminés. Il ne convient donc pas aux musulmans d'être négligents vis-à-vis de cela, mais il se doit d'être assidu à ces prières et de les accomplir chacune en leur temps. Et tu dois te rappeler que cette prière, c'est la première chose au sujet de laquelle tu seras interrogé au jour de la résurrection parmi tes œuvres. Si elle est bonne, le reste sera bon, mais si elle est mauvaise, le reste sera mauvais, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Il convient donc aux musulmans de multiplier les prières, car elles sont d'une grande importance. Tu te dois d'être assidu aux 5 prières obligatoires, en les accomplissant chacune en leur temps, et également il te convient de les faire suivre par ce que tu peux parmi les prières surrogatoires, en commençant par les plus méritoires parmi elles, comme la prière de nuit, les prières de rawatib, et ainsi de suite parmi les prières surrogatoires. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, et cet ordre est également adressé à l'ensemble de la communauté, de lui vouer exclusivement cette prière. Puis il lui dit: et sacrifie. C'est-à-dire ton sacrifice, voue-le aussi exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce en guise de reconnaissance pour tous ses bienfaits. Et le sacrifice, il englobe ici le sacrifice de l'Eid, Eid al-Adha, la fête du sacrifice, ainsi que l'offrande lors du pèlerinage, le sacrifice de la aqiqa, et aussi les sacrifices accomplis dans le but de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme pour donner la viande en aumône, car ceci fait partie des meilleures adorations. On voit donc à travers ce verset que la prière ainsi que le sacrifice font partie des adorations les plus immenses par lesquelles le serviteur se rapproche de son Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et on voit également qu'il t'incombe de vouer ces adorations, la prière et le sacrifice, exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, en dehors de tout autre que lui. Comme il le dit également dans un autre verset: قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ. Dis: en vérité, ma prière, mon sacrifice, ma vie et ma mort appartiennent à Allah, Seigneur de l'univers. À lui nul associé, et voilà ce qui m'a été ordonné, et je suis le premier à me soumettre. Vous voyez comment dans ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala a réuni entre ces deux adorations immenses qui sont la prière et le sacrifice, et qu'il a ordonné de lui vouer ces deux adorations à lui exclusivement, de ne lui donner aucun associé dans celle-ci. Par conséquent, ceux qui vouent une de ces deux adorations à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui se prosternent pour les morts, ou alors ceux qui s'inclinent ou se prosternent aux pieds des gourous de leur confrérie, comme on l'observe dans certaines confréries parmi les soufis, ainsi que ceux qui font des sacrifices pour les morts auprès de leurs tombes, auprès des mausolées. Alors ceux-ci se sont opposés à cet ordre et sont ainsi tombés dans le polythéisme majeur dont l'auteur sort de la religion de l'islam, walayadu billah. Car ceci est le plus grave des péchés. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةِ وَمَأْوَاهُ النَّارِ وما للظالمين من أنصار. Certes, celui qui donne des associés à Allah, Allah lui interdit le paradis. Sa destination sera le feu, et pour les injustes, point de secoureur. Donc le musulman, il soit droit de prendre garde au polythéisme, qu'il soit majeur ou mineur, et vouer ses œuvres exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Car ceci est l'ordre le plus important et le fondement essentiel de notre religion. Et c'est le sens même de l'attestation de foi par laquelle la personne entre en islam. Ashhadu an la ilaha illallah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que toutes mes adorations, elles doivent être vouées exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui dit cette parole, puis qui ensuite se prosterne pour les morts, fait des sacrifices pour les morts, invoque les morts, et ainsi de suite, celui-ci ne fait pas partie du nombre des musulmans, wal'iyadu billah. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala dit, inna shani'aka huwa al-abtar. Celui qui te hait sera certes sans postérité. Celui qui a de la haine envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors c'est un mécréant. Car il fait partie de la foi d'aimer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il n'est pas possible de prétendre avoir la foi et de détester le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans ce verset que celui qui éprouve de la haine envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il sera sans aucune postérité. Et ce qui est visé ici est qu'il sera oublié. C'est-à-dire qu'on ne le mentionnera pas en bien, qu'on ne fera pas ses éloges, et ce durant son vivant, et même après sa mort. Donc les mécréants de Quraysh, ils disaient au sujet du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qu'il serait sans postérité, qu'il n'y avait pas de bien en lui, qu'il n'y avait pas de bien en ses suiveurs, et que ceci serait oublié. Et on rapporte que lorsque le fils du prophète sallallahu alayhi wa sallam est mort, ils ont alors dit de lui cette parole, c'est-à-dire qu'il serait sans postérité, qu'il serait oublié, qu'il n'aurait pas de descendance. Allah subhanahu wa ta'ala a donc démontré par ce verset que c'est celui qui déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera oublié. Et c'est ainsi que cela s'est passé. Allah subhanahu wa ta'ala a exalté pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam sa renommée. Wa rafa'na laka dhikrak. Et nous avons exalté pour toi ta renommée. Et ce de son vivant, ainsi qu'après sa mort, et ce jusqu'au jour de la résurrection. Médite par cette double attestation qui est le premier pilier de l'islam, celle par laquelle la personne passe de l'obscurité de la mécréance à la lumière de la foi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. J'atteste que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Et cette attestation, elle est répétée 5 fois par jour, lors de l'appel à la prière. Elle est répétée également lors de l'iqamah. Elle est répétée également lors des sermons, en début des cours, en début des conférences. Également, tu la prononces lors de ta prière. Dans ton tashahhud, tu pries sur le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Tout ceci nous montre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas été oublié comme le prétendaient les mécréants de Quraysh, mais c'est eux qui ont été oubliés. En effet, ceux qui le détestaient, ils ont été oubliés. Et s'ils sont mentionnés, alors ils ne sont mentionnés qu'en mal. Et il faut savoir que ceci est la situation de tous ceux qui s'opposent à la vérité, tous ceux qui détestent la vérité et la méprisent, tous ceux qui méprisent les gens de la vérité et les dénigrent, alors ceux-ci finiront tôt ou tard par être oubliés. On voit donc dans cette sourate l'immense bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, comme cette renommée dont on vient de parler, mais aussi le bassin au jour de la résurrection, ce fleuve d'Al-Kawthar au paradis, et ainsi de suite parmi les nombreux bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce car il est le meilleur des créatures, le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes et des messagers, alayhim salatu wa salam. On voit également dans cette sourate qu'il incombe aux musulmans de vouer ses adorations exclusivement à Allah subhanahu wa ta'ala, d'être sincère pour Allah, de s'éloigner de toute forme de polythéisme, de ne vouer aucune adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, que ce soit en commettant de l'association majeure, mais aussi il t'incombe de t'éloigner de l'association mineure à l'exemple de l'ostentation et de la recherche des compliments et des éloges des gens. Également, il y a dans cette sourate l'ordre d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala pour les bienfaits. Comme on l'a mentionné déjà dans plusieurs cours, le musulman, il se doit de faire preuve de reconnaissance envers Allah subhanahu wa ta'ala. Et fait partie de cette reconnaissance le fait de te soumettre aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, de t'écarter de ses interdits et de lui vouer exclusivement le culte. En lui vouant exclusivement tes prières, lui vouant exclusivement tes aumônes, en lui vouant exclusivement ton jeûne, ton pèlerinage, et ainsi de suite, parmi les adorations qu'il t'incombe de vouer exclusivement à Allah, subhanahu wa ta'ala. Enfin, on voit dans cette sourate une mise en garde sévère contre le fait d'avoir de la répulsion pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou même contre le fait d'avoir de la répulsion pour la religion, même d'avoir de la répulsion pour une chose ou un ordre de la religion, car ceci est de la mécréance. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans son noble livre: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ. C'est parce qu'ils ont de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, il a donc rendu vaines leurs œuvres. Qui est celui dont vaines sont les œuvres? Celui dont les œuvres sont vaines, c'est le mécréant. Donc celui qui est de la répulsion pour ce qu'Allah a fait descendre, que ce soit pour le Coran, ou alors le fait d'avoir de la répulsion pour la prière. Celui-ci, il mécroit même s'il prie. Celui qui a de la répulsion pour la zakat, même s'il donne sa zakat, c'est un mécréant. Celui qui a de la répulsion pour le jeûne, même s'il jeûne le mois de Ramadan, il est mécréant en raison de cette répulsion. Car il est obligatoire pour le musulman d'aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Toutefois, il faut faire attention à distinguer entre celui qui a de la répulsion et celui qui est paresseux, qui a du mal à accomplir les œuvres de bien sans pour autant avoir de la répulsion pour celles-ci. Il y a certaines personnes qui sont paresseuses quant à l'accomplissement de la prière. Ils trouvent cela lourd. Mais ils n'ont pas de la répulsion pour la prière. Ils aiment la prière, mais ils trouvent que l'accomplir est quelque chose de lourd. Ils sont donc paresseux dans cela. Donc celui-ci, il ne mécroit pas. Toutefois, il doit prendre garde, car ceci est un signe de l'hypocrisie. Il incombe donc aux musulmans d'aimer tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré et de se soumettre à ses ordres d'une poitrine apaisée et avec plaisir, car ces œuvres sont celles qui te permettront d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'atteindre son paradis dans lequel tu auras une vie éternelle avec des délices éternels, bi'idhnillahi ta'ala. Demande donc à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider dans l'accomplissement de tout ce qu'il aime et agrée, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous compter parmi les gens du paradis et de nous préserver du feu de l'enfer. وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والحمد لله رب العالمين وجزاكم الله خيرا